des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour.
Vous revenez dans nos studios aujourd'hui pour votre chronique sur les femmes écrivaines sur Canal Académie. Quels sont les livres que vous avez élus cette fois ?
Alors j'ai sinon élu, du moins choisi, de vous parler de deux ouvrages édités chez Flammarion, tous les deux. D'une part, « Jours de souffrance » de Catherine Millet, que vous trouverez en librairie au prix de 20 euros. Et « Ce que l'océan ne dit pas », 21 euros, par Hortense Dufour.
Cher Jean Mauduit, je me disais bien que dans une chronique sur les femmes écrivaines, vous alliez finir par ouvrir un Catherine Millet.
Oui.
Est-ce que vous aviez ouvert le premier déjà ?
Non, je dois à la vérité de dire que je n'ai pas lu le premier, « La vie sexuelle de Catherine M. » Et je dois dire que, d'après ce que j'en sais, puisqu'il paraît qu'elle racontait ses expériences les plus intimes, les plus audacieuses, avec une précision de l'ordre du chirurgical, je n'ai pas lu ce livre. Le second suffit à mon bonheur.
Je sens une pointe d'ironie chez vous, Jean.
Oui, l'ironie, c'est à ça que ça sert, cache une certaine gêne. Ce livre, je vous l'avoue, me met un peu mal à l'aise.
Alors pourquoi ? Parce qu'elle se dévoile moins que dans le premier livre, Catherine Millet.
Certainement, d'ailleurs, exception faite de quelques pages ici et là, le livre n'a rien de scandaleux. Et oui, c'est vrai, Catherine Millet évoque avec un naturel parfait un certain nombre de scènes d'accessoires qui relèvent de la mécanique du sexe. Mais pour l'essentiel, la tonalité générale est plutôt dramatique, plutôt même tragique. C'est l'histoire malheureuse d'une femme qui, après avoir mené une vie sexuelle très libre en couple, en s'autorisant toutes les facéties, toutes les fantaisies, partout y compris, est prise à son propre piège, parce qu'en fait, elle est conduite à la paranoïa, en passant par une jalousie mortelle, on peut dire.
Alors avouez que ça a le mérite de l'honnêteté, une telle démarche.
Oui, c'est honnête, c'est en effet, et ce n'est pas inintéressant. Personnellement, j'ai toujours pensé, ça débouche sur le grand problème de la liberté sexuelle des femmes et de l'usage qu'elles en font dans leurs écrits. J'ai été un des premiers, je crois, à dire, à écrire, à professer que la prise de conscience de l'autonomie sexuelle, notre ventre est à nous, réclamé, disaient les filles du MLF en 1970, que cette prise de conscience avait plus fait pour la libération sociale et en général des femmes que tous les efforts du féminisme ouvrier, d'ailleurs assez inexistant, ou du féminisme bourgeois. Je ne reviens pas là-dessus. Simplement, je pose une question d'ordre littéraire. Sans méconnaître l'intérêt d'une connaissance intime des mécanismes du sexe et des plaisirs ou des déplaisirs qu'ils entraînent, le champ paraît quand même très étroit. Au moment où nous vivons des temps tellement anxiogènes, où tant de choses se passent, où les sociétés sont ébranlées, où la technologie galopante nous entraîne sans cesse vers de nouveaux problèmes, de nouveaux horizons, est-ce que vraiment il est juste, raisonnable de concentrer toute son attention sur ce qui se passe, pardonnez-moi, entre les cuisses de Catherine M et de son cerveau un peu souffrant, et dans son cerveau un peu souffrant.
Oui, mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est sa souffrance, justement. Et est-ce que le particulier ne rejoint pas l'universel ?
Oui, mais c'est un particulier très particulier, dans la mesure où, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ce particulier est très, quand même, me paraît, moi, à tort ou raison, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai rien compris, très étroit. Je sais bien que le sexe des femmes est immense et qu'il englobe le monde en est sorti, ok, de ce point de vue-là, quasi mystique, oui. Pour revenir à la vie quotidienne, ça me paraît quand même beaucoup d'attention pour un objet ou un sujet, comme on voudra, qui reste quand même pour moi étroit, littérairement parlant, s'entend. Hein, je parle d'un point de vue littéraire. Je ne parle pas d'un point de vue philosophique, bien entendu. D'un point de vue philosophique, vous avez complètement raison. C'est important. C'est inépuisable. Oui, le monde entier bascule autour de ça, d'accord. Mais d'un point de vue littéraire, ça ne me paraît pas beaucoup.
Alors, d'un point de vue littéraire et de votre lecture, comment voyez-vous l'écriture de Catherine?
L'écriture est remarquable. C'est une écriture très, très élégante, très distanciée, ce qui accroît d'ailleurs la vertu scandaleuse des passages où elle raconte des expériences, où elle évoque des expériences sexuelles. C'est l'écriture du roman d'analyse. D'ailleurs, c'est un très bon roman d'analyse. Un très bon roman d'introspection. Mais ça ne met que davantage, je viens de le dire, en vedette, en exergue, les passages où elle décrit ses fantasmes, où elle évoque des souvenirs amoureux, et où elle utilise là les termes les plus crus. D'ailleurs, c'est ce qui fait tout le choc, c'est que, à la suite d'une phrase élégante, dans la foulée, si j'ose dire, elle va brusquement, Catherine Millet, utiliser les termes les plus crus, les plus triviaux, les plus obscènes, quoi. Est-ce que la littérature est vraiment faite pour fouiller l'intime ?
Et alors, qu'est-ce que vous faites des auteurs comme Sade, comme Apollinaire ? Il y en a tellement qui se sont,
oui,
peut-être pas amusés,
oui,
mais
moins
qui ont tenté aussi la littérature
érotique. C'était tous des hommes, puisque nous savons tous que Pauline Doréage n'est pas une femme, et qu'elle cache un écrivain bien connu, encore quand on n'est pas une certitude totale. Sade, Apollinaire, Pauline Doréage, bien sûr. Mais chez eux, c'est la grande différence. L'érotisme est toujours au service de l'imaginaire. D'un imaginaire, si j'ose dire, poétique. Ce n'est pas le cas ici. Bien sûr que Catherine aime fantasme, mais ce n'est pas cet imaginaire-là dont je parle. L'érotisme de Sade, Apollinaire, les 100 000 verges, nous entraîne dans un monde onirique. C'est un monde créé, créatif, créé. Là, nous sommes vraiment dans la chirurgie intime, dans la médecine la plus approfondie. C'est très médical, tout ça. Nous sommes dans la névrose obsessionnelle, quoi.
Alors, avant de refermer définitivement ce livre, est-ce que vous pourriez quand même nous en lire un passage ?
Oui, il faut que je choisisse bien. Je voudrais tout terminer en vous rappelant une anecdote que je raconte souvent, parce qu'elle est, à mon avis, très symptomatique des limites de ce genre-là. C'est un grand dessinateur des années 60 qui, en trois petits tableaux, évoque, premier tableau, une stripteaseuse qui est en train de se dévoiler. La foule crie « Encore !» Deuxième tableau, elle est totalement nue et la foule crie « Encore !» Au troisième tableau, c'est un squelette qui danse et la foule crie « Encore !» Alors, pour vous lire un passage... Bon, je vais choisir un passage décent. Bon, il est un peu érotique, mais il est décent. Moi, je découvre que je suis plutôt pudique. Enfin, les années qui passent me font apprécier la valeur de la pudeur. Ou bien, sans l'avoir prévenu, je venais attendre Jacques à la gare de Lyon, complètement nu sous une gabardine. En marchant à ses côtés sur le quai, en m'asseyant près de lui dans le métro, je me réjouissais de le voir si ignorant d'un objet de désir pourtant à la portée de sa main, comme on s'amuse d'un enfant à qui l'on fait chercher le cadeau que l'on a caché, et qu'on le presse en lui disant « Tu brûles, tu brûles ». Je me montrais particulièrement affectueuse. Je jubilais que dans la bousculade, 1 mm d'épaisseur de tissu seulement séparât ma peau nue de lui, qu'un geste aurait suffi à enlever, que j'enlevais en effet en desserrant la ceinture, juste avant que nous ne passions la porte de la maison, il nous arriva de baiser sur le pas de cette porte. Alors, voici un autre passage qui est plus contenu. Elle parle là de messages qu'elle reçoit, messages de son amant. Ces messages me rendaient délicieusement étrangère à moi-même. Comme je n'avais pas le souvenir des aventures que ces messages rappelaient, il représentait autant de possibilités de me projeter dans le paradis de Jacques auquel j'avais cru ne pas avoir accès. Cette sensation d'altérité, qui s'accompagnait forcément d'une sensation de liberté, liberté d'être une autre, liberté d'échapper, un moment, à la souffrance, je la retrouvais à ma façon dans certaines circonstances précises. Au terme de nos séparations, il y avait les retrouvailles. Pendant 10 ou 15 jours, ma solitude avait été envahie par les rêveries, celles qui me torturaient, et celle qui me consolait. Quand Jacques venait me chercher à l'aéroport de Perpignan, ou bien lorsque c'était lui qui rentrait à Paris, les toutes premières minutes, je profitais de ce moment intermédiaire où nous n'étions plus séparés, où nous n'avions pas non plus repris nos habitudes de cohabitation pour prolonger l'atmosphère de rêverie dans laquelle j'avais été plongé. Des situations aussi merveilleuses que celles évoquées au dos des cartes postales, je pouvais les vivre. Les scrupules que j'aurais eus peu de temps après une dispute et la gaucherie, presque la timidité que j'aurais mise alors dans un rapport sexuel, étaient dépassées. Voilà l'objet. C'est très bien écrit.
Alors, Jean Mauduit, vous avez décidé d'ouvrir un second livre pour cette chronique, un tout autre livre, celui d'Hortense Dufour,
oui,
et son roman « Ce que l'océan ne dit pas ».
Oui, ça est évidemment, on est là devant un tout autre univers.
C'est le même éditeur, hein, Flammarion.
Oui, c'est une petite fille qui grandit au fil des années 50, il y a donc un demi-siècle de ça. Elle grandit à Marennes, la capitale de l'huître, un pays étrange, proche de l'océan, que l'océan vient nourrir et rythmer la vie. Une localité de moins de 4000 habitants, à l'époque où traînent encore des souvenirs de la guerre et de l'occupation. La mère de la petite fille qui ne dira jamais son nom, c'est écrit à la première personne. La maman s'appelle Sylvia, c'est une violoncelliste italienne, qui a la tête pleine d'étoiles et qui a été laissée à elle-même par un juge qui est son mari, un juge d'instruction qui est parti en poste en Algérie et qui l'a laissée se débrouiller toute seule à Marennes avec ses enfants. Sylvia vit dans un désordre complètement bohème, au milieu de ce qu'on peut appeler sa tribu. Il y a là ses parents, les grands-parents donc de la petite fille narratrice, un grand-parent qu'on appelle Nonno et Nonna, qui ont fait jadis en Italie une brillante carrière de musicien classique. Et puis il y a la tante Zia, qui est elle-même violoniste, une vieille dame un peu racornie, mais qui cache sous ses allures un peu brusques un cœur généreux. Et puis il y a le chat petit gris, et puis il y a Coco, un corbeau maléfique, qui va d'ailleurs s'attaquer à la petite fille. Il y a plein de personnages comme ça, un voisin aussi terrible, qui les injurie, qui leur veut du mal, qui est une espèce de diable obsédant. Alors tout ça dans une maison en ruine, la Borderie, que le juge d'instruction a achetée avant de partir pour l'Algérie, et où tout le monde vit là, un peu n'importe comment. Et au milieu de tout ça, Sylvia, la maman, donc, a conçu pour sa fille une ambition majeure. Elle sera écrivain. Et nous assistons à la fois à la progression de la petite fille, qui de toute petite fille devient une petite fille, puis une grande fille, et en même temps à l'éclosion de sa profession d'écrivain, qu'elle va alimenter sa vocation en allant se recueillir au bord de l'océan, à qui elle confie ses secrets.
Elle a quel âge, la petite fille ?
Ben, elle n'a pas d'âge. Le roman commence, elle a, à sa naissance, qu'elle mémorise, bien entendu, à travers les souvenirs qu'on lui rapportait. On ne sait pas d'ailleurs à quel âge elle écrit cela, probablement à la fin de son adolescence, mais elle évite les pièges du roman de jeunesse, qui est un grand classique, par lequel passent beaucoup d'écrivains avec plus ou moins de bonheur. Ce n'est pas un roman de jeunesse.
C'est vraiment Vous voulez dire sur sa propre jeunesse ?
Oui. C'est une remémoration très proustienne, je dirais, au style près. Et le récit a une dimension merveilleusement poétique. Hortense Dufour fait vivre avec un bonheur mais extrême un monde aujourd'hui disparu, dont elle évoque les décors, les rites, les personnages avec un extrême bonheur d'écriture. C'est encore le temps de cette société rurale dont nous avons connu les derniers soubresauts. Enfin, elle palpite encore dans quelques endroits perdus, mais pour l'essentiel, elle a disparu pour faire place à une société rurale industrielle. Mais ici, là, à Marennes, on tue le cochon à la ferme voisine. On va manger le cochon avec les voisins. On déguste la matelote d'anguille. On boit du pinot. La guerre fait rage en Corée. Mao Zedong a pris le pouvoir en Chine, mais on prend le thé chez une voisine anglaise qui a été infirmière pendant la Grande Guerre. Et puis à l'école, qui ressemble à une prison, et puis les bavardages des commères, et puis le coiffeur, qui teint les dames en roux, qui leur fait des indéfrisables, comme on disait à l'époque. Puis les premiers tubes de Dalida, les premiers combats en Algérie, et le catéchisme, et les demoiselles du patronage. Tout un monde que vous avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais que j'ai connu, que j'ai côtoyé, et qui ressuscite avec une force étonnante. Et puis surtout l'océan qui vient, je vous l'ai dit, rythmer la respiration de cette petite ville, les parcs d'huîtres, l'horizon infini, l'océan auquel l'héroïne se confie comme un ami, mais qui ne rend jamais l'escrêt qu'on lui a livré.
Donc Hortense Dufour arrive à rendre cette période au point de vous rendre nostalgique ?
Je ne suis pas trop nostalgique en général, mais j'avoue là, oui, qu'on a un coup de blues en lisant ça. C'est tellement juste. Mm. C'est tellement juste. Ça ne tombe pas dans la mélancolie à bas prix ou dans la nostalgie ordinaire. Elle nous livre les clés, ces clés personnelles d'une époque que nous avons connue, mais qui a disparu dans les brumes de la mémoire collective. Et pourquoi je trouve qu'il est précieux qu'une sensibilité féminine nous la restitue, cette époque vivante, à travers le prisme de ses souvenirs. C'est un travail de mémoire qui mérite assurément une visite.
Jean Mauduit, faites-nous goûter un peu à cette nostalgie.
Eh bien, volontiers. Sylvia allait parfois à Marennes, rue Le Terme, rendre visite à son étrange amie, Mademoiselle Cornelia Tracolson, huguenote, fort riche, très cultivée, petite fille d'un pasteur anglais, fille d'une fortune de La Rochelle. Cette institutrice à la retraite avait connu le Royonnais et sa famille, le Royonnais étant le premier mari de Sylvia, la maman. Point de mariage, point de rancœur, Cornelia Tracolson aimait l'indépendance, le dieu de la Bible, les journaux financiers et la musique religieuse. Elle avait hérité de cette maison à Marennes. Cornelia Tracolson, quoique au courant de tout, posait peu de questions. Elle se faisait envoyer des journaux protestants et financiers. Elle sortait rarement. Son courtier de La Rochelle lui rendait de régulières et discrètes visites. Il garait devant l'église une voiture grise à toit rebondi. Un imperméable flottait autour de lui. Il portait une serviette en cuir lourd jusqu'à la porte de Mademoiselle Tracolson. Nul visiteur chez elle, au jour du courtier. Le parfait silence des rues. Sa maison était merveilleuse. La façade austère cachait un petit palais, tout en plancher rutilant, lustres en cristal, meubles rares. Ces choses assez répandues en Saintonge, ces demeures bien cachées derrière les façades rectangulaires dont les contrevents, côté rue, sont clos. Sylvia cognait le marteau en bronze, en pattes de lion, contre la porte lourde. Elle s'ouvrait sur le sourire anglais de Cornelia, vêtue d'une robe en tricot mauve, au gilet assorti. Le col était une mousse de tulle violet, une raie sur le côté, les cheveux maigres et gris, rassemblés dans une résille de velours mauve. Cornelia semblait vouée au mauve, et quelle que fût la saison, aux vêtements en laine. Des yeux pâles, laiteux, les lunettes épaisses au bout d'un cordon mauve, contre une chaîne où était glissé un oiseau plat, aux ailes ouvertes. Cet oiseau, dit-elle, s'appelle le Saint-Esprit. Je m'étonnais qu'il y eût une telle variété de volatiles. Celui-là, d'un beau métal jaune, se tenait tranquille au col en tulle de Mademoiselle Tracolson. Des chaussures plates, à la façon des bonnes sœurs, des bas foncés, une bague, comme celle de Nonna, une pierre sombre, cernée de perles. Cornelia était grande, elle glissait de sa maigreur distinguée sur ses parquets cirés. On traversait un couloir où serpentait un tapis d'un bleu rare. Une véranda éclairait une vaste cuisine pavée de carreaux rouges et gris. La gazinière était un formidable engin rutilant de cuivre. Une bouilloire soigneusement astiquée, d'or rouge, était en permanence posée sur un des feux pour le thé. Du four s'échappait l'odeur vanillée des petites galettes rondes et plates, savoureuses spécialités de Cornelia. Des années plus tard, je reconnus en Angleterre, puis en Amérique du Nord, les cookies de Mademoiselle Tracolson.
C'est effectivement aux antipodes de Catherine Millet, on peut dire.
On est loin, oui, on est loin. Je n'ai pas forcément choisi le meilleur passage, mais enfin, bon.
Vous voulez nous en lire un second ?
Ah, on va peut-être en trouver un second. On a quelque chose de plus animé. Ce 3 juin 1953 était un dimanche. La cérémonie à Londres durait de 10h à midi. Il s'agit du couronnement de la reine d'Angleterre. À 10h ce matin-là, Sylvia écarta tout le monde, tira les contrevents, alluma des bougies. Elle ferma la porte branlante du salon foutoir. Elle avait posé au sol un gros coussin fané, recouvert du tissu écarlate offert par Fanfan. Elle m'avait habillé de la robe en organdi blanc destinée à la Sainte Christine. Elle accrocha à mes épaules un long morceau de satinette blanche. Elle mit à mon cou d'enfant ses 3 rangs de perles. Ils atteignaient ma taille. Elle agrafa à un ruban de moire bleue, ancienne ceinture de la toge du juge, quand il était simple juge d'instruction à Loudun, ses broches. Elle avait préparé aussi un flacon d'huile que Babert l'innocent, à la demande de Sylvia, avait fait bénir par le curé au pèlerinage pour la Sainte Trope. Notre radio grésillait. Mon frère lançait des coups de pied dans la porte. C'était la première fois que Sylvia ne lui donnait pas la préférence. De la TSF s'égouttait une musique solennelle, très ennuyeuse, entrecoupée de la voix métallique d'un commentateur. Enchanté d'abord d'un jeu parmi d'autres et de vaincre Bang Bang, je bâillais vite d'ennui, irrité, à genoux sur mon coussin. Tanzia faisait des gros yeux. Une reine ne doit pas bouger. On ne voyait de ses yeux que du blanc. Je n'aime pas les yeux blancs, les yeux frits, les yeux de morte de Tanzia. J'étais au bord de pleurer d'impatience. Sylvia m'obligeait à suivre ce qu'elle entendait à la radio. À genoux, debout, penché, coupé, à genoux, debout, etc. « On va te couper la tête !» hurlait de son côté Bang Bang. C'est le frère, vous l'avez deviné. Je criais « Ta gueule, imbécile de con de merdeur !» à la manière dont je l'avais entendu dire à l'école, aux hargneuses récréations. Tanzia égrenait son chapelet, ses Ave Maria en latin. C'était un beau charivari. La TSF devenait inaudible, sentait le brûler. On fit asseoir sur le fauteuil, le crapaud usé jusqu'à la trame, recouvert du velours de Fanfan. L'évêque de Londres posait la couronne sur les cheveux courts, bouclés, d'Élisabeth. Sylvia, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Saint-Expédite, couronnait mon front à bosse bleue, une couronne en papier argent issue de la galette des rois. « Branleuse !» grinçait Bang Bang. Une volée de cailloux jaillissait de sa fronde contre le contrevent. Nonna gémissait d'arthrose aiguë, Nonno s'agitait. Je retenais l'envie de jeter des coups de pied dans tous les sens. Il y avait eu l'huile sacrée. Sylvia enjoignit mon front, mes lèvres, mes mains, d'un pouce qui traçait une croix. « Vive la reine ! Que Dieu la sauve !» criait Sylvia, inclinée devant moi. Tanzia, égarée dans ses mondes, d'ailleurs, s'agenouilla. Elle baisa ma main. Bang Bang lançait des blasphèmes. C'était grotesque et grandiose. « Basta, così, ça suffit !» cria Nonno. « Ce sacre, dit Sylvia à Nonno agité et trop rouge, lui servira à se redresser contre toute adversité. J'ai fait d'elle le contraire d'une plante saisonnière, j'ai fait d'elle une vivace, une reine est une vivace. »
Merci beaucoup Jean Mauduit.
Vous avez été couronné vous aussi.
Plusieurs fois la galette des rois. Ouais. J'ai eu cette chance.
Non mais ce genre de... De sacre, là.
À bientôt pour une prochaine chronique sur les femmes écrivaines.
À bientôt.